bonjour, Stéphane Jamenet.
Bonjour, voilà, donc notre invité en ligne pour la présentation de cette séquence consacrée à l'intelligence artificielle, aux images et au droit à l'image. Heureux de vous retrouver donc à l'antenne de Radio Campus en direct.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, effectivement, avec l'émergence de l'intelligence artificielle et son développement, on peut dire fulgurant, non ?
Oui, complètement, fulgurant sur les 2, 3, 4 dernières années.
Ouais. Donc, quand on dit fulgurant, souvent, on se demande si c'est maîtrisé, tout ça, et on se pose la question des cadres, des peut-être bornes, et puis la question juridique aussi un peu, et surtout les modifications que ça peut entraîner dans la société. Et là, peut-être aujourd'hui, on peut parler de ce que deviennent les artistes dans ce milieu.
Oui, complètement. Nous, en effet, ce qu'on travaille, notre sujet de prédilection, c'est l'intelligence artificielle adaptée, en tout cas utilisée par les artistes, par le monde artistique. Nous, on développe donc une technologie qui, à partir d'images, permet de faire de la 3D. C'est un petit peu dans justement cette lignée de logiciels qui sont capables de générer des images, de logiciels qui sont capables de générer des vidéos. On l'applique particulièrement au monde des créatifs, cinéma d'animation, jeux vidéo, expériences immersives. Et donc aujourd'hui, on développe ces outils-là. Il y a beaucoup d'avancements qui ont été faits dans les dernières années, justement d'où la question de la régulation, et on y reviendra peut-être au niveau européen notamment, mais aussi mondial. Hein. On a aussi, évidemment, aujourd'hui, tout un ensemble de grands groupes, notamment américains, qui, entre guillemets, font leur beurre en disant qu'on va remplacer des humains, et notamment donc, dans le milieu artistique, qu'on va remplacer des artistes. Donc c'est un très très gros sujet.
Alors effectivement, il y a deux choses, on va dire, qui interviennent. Il y a à la fois les images qui sont publiées, qui sont enregistrées, mémorisées, stockées dans d'énormes bases de données. Il y a des sociétés qui les revendent, qui les louent, qui ont stocké des millions et qui, à la demande, peuvent fournir des images qui ne leur appartiennent pas forcément au départ, d'ailleurs. Et puis, il y a le côté détournement des images, modification, réadaptation, parfois, justement, même celles qui sont faites par des artistes, transformées par d'autres artistes pour en faire des œuvres un peu différentes, avec chacun son style.
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le sujet en amont de l'utilisation, qui est une entreprise comme, par exemple, OpenAI, qui commercialise ChatGPT. Comment elle va construire sa base de données pour justement entraîner ces intelligences artificielles. Aujourd'hui, on ne connaît pas ce qu'on appelle le jeu de données, le dataset d'OpenAI. Donc, on suppose que dedans, il y a probablement des images soumises au copyright. C'est le cas pour tous les générateurs d'images, les générateurs de vidéos que vous voyez. Ça pose des gros problèmes, déjà parce que du coup, beaucoup d'artistes considèrent qu'on vole leur travail. On va entraîner sur une base de données qui, justement, contient du copyright. Et aussi, ça pose un problème d'un point de vue légal, parce que aujourd'hui, c'est un petit peu une zone grise. Parce qu'en fait, on a un jeu de données qui est contaminé par exemple, une image de Mickey Mouse. Mais donc, ça veut dire que est-ce que l'image de sortie qui va sortir de l'intelligence artificielle aurait ou pourrait avoir des droits soumis à Disney, par exemple? Ça, c'est une très grosse question. Donc ça, c'est la partie amont, et on a aussi la partie aval. Quand on utilise une intelligence artificielle, une IA, est-ce que ce qu'on fait, on en est propriétaire? Aujourd'hui, le droit statue qu'il faut à minima avoir fait 30% du travail, ce qui est un peu flou. Mais par exemple, si vous faites un prompt qui est très élaboré, vraiment, vraiment très élaboré, hein, on parle de plusieurs lignes, alors là, oui, ce qui sort va être votre propriété. Est-ce que si vous, par exemple, vous retravaillez une image qui aurait été générée, un modèle 3D qui aurait été généré, là, oui, vous êtes aussi propriétaire du droit de cette image. C'est quelque chose d'assez vaste, hein, en l'occurrence, et encore plus aujourd'hui, on parle tout ce qui va être des deepfakes, donc on va reprendre le visage de quelqu'un pour l'utiliser dans une vidéo, par exemple, sans son consentement. Ça, c'est encore une préoccupation encore différente. Et heureusement, à l'échelle européenne, on est assez régulé là-dessus, grâce notamment à ce qu'on a appelé le AI Act, qui est en train d'entrer progressivement en application.
Donc avant, on avait quand même, je pense, à des personnages publics qu'on représentait au travers du dessin ou autre, on avait quand même un droit d'interprétation, justement, dans ces caricatures, etc. Est-ce que ça a beaucoup changé là? Est-ce qu'il y a un gap et qui maintenant nécessite de revoir complètement les droits?
Alors le droit actuel, en tout cas le droit français et donc le droit aussi européen, prévoit qu'on a un droit de caricature et un droit de diffusion de l'information. Donc on a le droit de représenter quelque chose, si c'est entre guillemets pour le détourner, sans que ce soit pour tromper la personne qui est dans la réception de cette image ou de ce texte ou de cette vidéo, etc. Donc si ça a un but caricatural, ça c'est toujours protégé par le droit. En réalité, le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, etc., sont des outils qui sont censés être, je dirais, transverse dans les années qui viennent, et c'est pas censé être quelque chose qui bouge en fonction de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est prévu pour un cadre qui est encore plus large. Donc beaucoup des logiciels d'intelligence artificielle aujourd'hui sont restreints par le droit qui avait été fait, pour autant il y a plusieurs dizaines d'années parfois. Certaines nouvelles clauses, nouvelles restrictions sont mises en place. On pense notamment à tout ce qui va être reproduction des visages. En France, par exemple, la CNIL, qui défend notamment les données des utilisateurs, en tout cas les Français, sur Internet, protège l'utilisation des visages et considère que en fait, le visage, c'est une donnée biométrique. Donc, il ne faut pas que ça puisse être reproduisable, reproductible, facilement, par une intelligence artificielle.
Alors, il y a quelque temps, je me souviens d'un système, on va dire, qui permettait de retrouver, d'identifier des visages et qui retrouvait un peu des équivalents un peu partout dans ce qui existait comme photos disponibles sur la toile, avec les sources aussi. Donc ça, depuis, ça a été plus ou moins
Alors,
freiné.
généralement, ce n'est pas des logiciels qui sont hébergés en Europe, parce qu'en effet, en Europe, c'est illégal. La police ou d'autres services comme ça ont le droit, mais de le faire, mais c'est vraiment dans des situations qui sont, je dirais, exceptionnelles. Un des plus connus, hein, qui est capable de faire ça, c'est l'équivalent de Google Chrome en Russie, qui s'appelle Yandex.
Ouais, c'est ce que tu m'as dit.
Et en effet, sur Yandex, on est capable de faire ça. Mais du coup, vous l'aurez compris, c'est un logiciel qui est basé en Russie. Donc c'est extra-européen.
D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres qui ont essayé de faire un peu comme Yandex, mais qui sont revenus en arrière justement à cause de la loi. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, par exemple, sur Google, vous avez une fonctionnalité qui permet de chercher des images, chercher un modèle de chaise, un modèle de chaussure. Si vous prenez en photo un visage, ça ne trouvera pas. De même sur ChatGPT, hein, d'ailleurs, ChatGPT aujourd'hui, vous prenez une photo dans la rue dans laquelle vous êtes, ChatGPT est capable de vous donner exactement l'emplacement, le lieu exact d'où se situe cette photo. Mais si vous prenez un visage, ça ne fonctionnera pas.
Donc on peut dire que tout ce qui est officiellement commercialisé comme outil est bridé du fait des réglementations en vigueur, pas seulement en France, mais aussi sans doute dans plusieurs pays qui se sont mis d'accord sur des principes.
Tout à fait, tout à fait. On peut complètement dire ça, hein. C'est vraiment des restrictions qui sont mises en place, donc sur l'utilisation de l'image, mais aussi sur quelles vont être les sorties. Hein. On sait que, par exemple, ChatGPT, initialement, n'était pas. Et on pouvait un peu lui faire dire ce qu'on voulait, même voir lui faire sortir des recettes, par exemple, pour faire une bombe, pour braquer une banque, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est des systèmes qui sont des barrières, en tout cas, qui sont mises en place. Petit à petit, et notamment OpenAI a fait ça de manière très sécuritaire. Comparé par exemple à xAI, la société d'Elon Musk qui fait un logiciel qui s'appelle Grok pour notamment générer des images, un petit peu l'ancêtre de Twitter hein, qui l'a racheté. Cette intelligence artificielle-là, elle est beaucoup moins censurée. Donc on a aussi des politiques qui s'adaptent non pas en fonction des pays, mais simplement déjà en fonction des entreprises.
Donc, on va dire qu'il y a une régulation internationale ou au moins large des pays, et puis il y a aussi l'autorégulation des sociétés qui essayent de rester dans les clous quand même. Elles n'ont pas forcément de raison d'aller dans des domaines interdits ou qui portent préjudice.
Alors, pour l'instant, oui, en tout cas les sociétés connues. Les sociétés connues, il y a des entreprises, on sait, qui ont l'ambition de faire des choses un petit peu moins morales. Et après, ensuite, à l'échelle internationale, il n'y a pas encore de régulation. En fait, du fait notamment de la guerre économique que se mènent les États-Unis avec la Chine. On sait que les acteurs américains n'ont pas forcément envie de réguler ce secteur-là, parce que sinon, ça voudrait dire que la Chine pourrait prendre le dessus. Donc on est vraiment dans une forme de cristallisation aujourd'hui législative à ce niveau-là, qui empêche une régulation, en tout cas entre les deux plus grands acteurs que sont la Chine et les États-Unis.
Donc c'est vrai que ce qu'on peut voir en Chine est différent de ce qu'on peut voir sur les réseaux en France. Il y a des choses qu'on peut voir en France qu'on ne peut pas voir en Chine et réciproquement d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Alors réciproquement, en tout cas, c'est beaucoup plus vrai dans un sens que dans l'autre. Mais on a beaucoup entendu parler de, par exemple, DeepSeek il y a quelques temps, un concurrent de ChatGPT qui se voulait, en tout cas à l'époque, plus puissant, plus intelligent. En effet, on ne pouvait pas, par exemple, parler de la place Tiananmen dans DeepSeek. C'était une censure directement appliquée.
En même temps, il y a des sujets, même dans nos réseaux à nous, qui sont fortement, on va dire, filtrés.
Oui, alors c'est vrai, à cause des algorithmes, parce que on a, je dirais, les plateformes aujourd'hui, hein, donc notamment les réseaux sociaux, etc., ont certains biais. Hein, on l'a bien constaté des fois, par exemple, avec le rachat de X de Twitter par Elon Musk, ou par justement les revirements un petit peu de Facebook, notamment le groupe Meta. On a aussi, même nous en Occident, dans les démocraties occidentales, certains biais de lecture et de présentation. Je dirais que c'est le lot de toute création humaine qui vise à diffuser de l'information. Après, vise à savoir, du coup, reste à savoir. Si on diffuse l'information, dans quel but, et vraiment avec quel degré de contrôle?
En Chine, par exemple, j'ai vu beaucoup d'images au début de la guerre à Gaza qui étaient très violentes, très dures, explicites, on va dire, et qui étaient filtrées, voire interdites en France. Donc là, c'est un peu inversé les rapports.
Vous voulez dire qu'on serait plus libre en Chine, c'est ça?
Dans ce domaine-là, il y avait une information qui circulait beaucoup plus sur ce qui se passait à Gaza avec les massacres, oui.
Alors, je saurais un peu moins vous dire sur ce sujet-là. Je pense qu'en effet, après, c'est plutôt aussi des contextes géopolitiques, hein, et des sujets d'alliance. On voit que, par exemple, donc on parlait de Gaza, dans la société américaine, c'est des sujets qu'on très peu filtrés dans certaines sphères, dans la société israélienne aussi, hein, mine de rien. Et en Chine, peut-être qu'il y a eu un biais qui était moins présent. En Asie, de manière générale, ça, je dirais que ça va dépendre un petit peu des différents acteurs qu'il y aura dans chaque pays à chaque fois, hein, et du des différents biais qu'il pourrait y avoir aussi dans les médias ou non.
Donc là, je faisais plutôt la différence entre TikTok et l'équivalent chinois, où là, il y avait bon, des formes de liberté que je trouvais assez étonnantes, alors qu'en général, c'est évidemment plus resserré qu'en France, par exemple. Ouais.
Il faut aussi faire attention à ça, dans le sens qu'aujourd'hui, on le sait, hein, les pays comme la Chine, la Russie ont aussi en tout cas des volontés de déstabilisation. On l'a vu notamment pour la Nouvelle-Calédonie avec les réseaux sociaux, ça a été extrêmement fort, où il y a eu des fake news qui ont été diffusées, où il y a eu en tout cas des informations alternatives qui ont pour objet de nourrir certaines volonté de penser qu'on cacherait l'information. Je pense pas qu'en tout cas en Occident on cache l'information. Peut-être qu'il y en a certaines qui sont mises moins en avant. Les réseaux sociaux ont ça aussi de particulier que ils vont montrer une chose différente en fonction d'une personne A et d'une personne B. Donc on n'est pas sur un média classique, hein, la presse papier ou télévision ou de la radio comme aujourd'hui. Où on est uniquement receveur de l'information. Là, on est acteur en quelque sorte de ce que l'on voit. On est nourri à une information qui nous entretient en tout cas dans nos croyances et ne vise pas à nous faire grandir en tout cas par ce qui nous est présenté.
Après, il y avait bah, TikTok qui a quasiment failli être interdit aux États-Unis. Donc là, c'est carrément la massue, quoi.
Alors, ça n'a pas failli, hein. C'est la maison mère de TikTok, donc qui s'appelle ByteDance, en Chine, va être obligée de vendre la partie américaine de TikTok à des entreprises américaines. Donc ça, c'est le grand deal de Donald Trump, hein, depuis sa réélection. Donc vraisemblablement, ça va être des milliardaires américains qui vont acquérir cette partie États-Unis de TikTok.
On peut imaginer que ça fera un grand changement dans ce qu'on pourra voir, à quoi on pourra accéder ou pas.
Ah oui, complètement. On l'a déjà vu on parlait de Twitter, hein, ça peut être le même genre de révolution en termes de contenu à l'intérieur, hein, complètement.
Alors justement, sur bah, pour TikTok, par exemple, hein, on voit des images produites par des... On va dire des opérateurs extérieurs, si la Russie ou autre, mais qui sont des images vraiment fausses. Alors parfois on le voit, on le remarque, on dit là c'est pas possible, puis parfois on se pose vraiment la question.
Alors oui, donc déjà, pourquoi, hein, c'est ce qu'on appelle le AI slope. Comprenez la courbe de l'IA, dans le sens où aujourd'hui, on a des générateurs de vidéos qui sont devenus tellement bons que ça va en fait inonder les médias, les réseaux sociaux notamment, TikTok, maintenant un petit peu YouTube, de contenu généré par IA. Alors ça peut être simplement par des personnes sans... but précis, voilà, mais ça peut aussi être par des puissances étrangères dans des perspectives de déstabilisation complètement.
Bon, j'imagine que tous les pays ont leur secteur propagande et s'en servent.
Ben, on plus ou moins, hein, on sait que, enfin, ça dépend la morale qu'on va mettre derrière aujourd'hui. Nous, les pays européens le font assez peu, les pays américains, en tout cas les pays d'Amérique du Nord. En tout cas, il y a beaucoup moins d'écho là-dessus. C'est plutôt du soft power qui va être fait, plutôt que de la guerre informationnelle. Ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte aujourd'hui. Je pense que tous les pays aujourd'hui ne sont pas logés aux mêmes enseignes là-dessus. Déjà aussi parce que, ne serait-ce que quand on voit la Russie ou la Chine, ils ont la capacité de venir sur les réseaux Internet occidentaux, mais les pays occidentaux sont en complète incapacité d'aller sur l'Internet chinois ou l'Internet russe, par exemple.
Alors c'est vrai qu'en France, on était abreuvé. J'ai connu l'époque des années 50, 60, etc. On était abreuvé d'images américaines, les Far West, il y avait les méchants Indiens et les bons Yankees, etc., quoi. Donc on en a eu un gros paquet. Je pense que c'était dealé après la libération où on aurait droit à autant de pourcentage de production américaine dans le pack, quoi.
Oui, c'est ça. Et bon, on a eu aussi le plan Marshall derrière qui nous a liés fortement aux États-Unis, différents sujets hein, comme ça. Hein. Et je pense que c'était aussi au-delà de simplement ces questions économiques ou des questions de devoir, de dû. C'est aussi des fois une aspiration. Hein. Les États-Unis, ça a été une aspiration forte pour les Européens depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est pas non plus antinaturel de se dire que les choses se sont faites progressivement. Aujourd'hui, je pense que la nouveauté depuis la réélection de Donald Trump, c'est vraiment le sentiment, et en tout cas, on l'a vu, en tout cas, plusieurs fois réapparaître dans la sphère politique et médiatique, le sentiment de se dire que l'Europe était une colonie culturelle américaine. Et ça, c'est une idée, en tout cas, quelque chose dont on se rend compte qui fait de plus en plus son bonhomme de chemin, en tout cas dans l'esprit des Européens.
Alors justement, est-ce que l'IA va permettre de nous libérer un petit peu de ces influences extérieures? Et est-ce qu'aussi l'IA pourra détecter dans d'autres IA ou d'autres productions réalisées par l'IA la part de vrai et de faux? Finalement, seront peut-être aussi par l'IA des outils qui nous permettront de faire le tri?
Alors, tout dépend. Est-ce que déjà il va y avoir des acteurs suffisamment puissants en Europe qui feront que ça changera la domination, notamment on pense au monde numérique. Hein, aujourd'hui, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, sont les entreprises les plus puissantes du monde. Hein. Rien que par exemple, si on prend Nvidia, c'est une entreprise qui est plus lourde que tout le CAC 40 réuni. Donc aujourd'hui, dans le numérique, en tout cas, les Américains ont eu un énorme monopole. Est-ce que dans l'intelligence artificielle, on n'a pas un risque de reproduire ce schéma-là? C'est quand même assez probable. En Europe, on a très peu d'acteurs. On a Mistral en France, le concurrent de ChatGPT. On a Stability au Royaume-Uni. Quelques autres acteurs, mais moins importants. C'est une vraie question, hein. Aujourd'hui, il faudrait qu'émergent des leaders européens. Il faudrait avoir une politique en ce sens à l'échelle de l'Europe. C'est pas forcément une politique qu'on a et qui est encore dans les cartons aujourd'hui. Au contraire, on va plutôt viser à réguler. La régulation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les citoyens. Mais d'un point de vue économique, pour les entreprises, c'est quelque chose qui va les freiner. Quand vous avez des acteurs américains qui, face à vous, ne sont pas régulés, vont potentiellement donc être aussi moins chers, avoir plus de données, ça veut dire qu'ils seront aussi plus performants. Et donc, on a du mal à avoir une concurrence, je dirais, loyale. Quant au fait derrière d'avoir des intelligences artificielles qui pourraient détecter le vrai du faux. On y vient progressivement, mais il y a toujours, je dirais, un bond technologique. Quand un nouveau modèle de génération de vidéos sort, ces logiciels qui détectent les fausses images ont un temps d'adaptation. Donc c'est assez, je dirais, c'est un petit peu la course à l'échalote.
Voilà, donc le fact-checking, c'est pas encore par l'IA qu'il faut l'attendre.
On l'attend par l'IA, mais en tout cas, je pense que ce sera une des meilleures solutions de l'avoir. Mais il faut toujours se dire qu'en tout cas, il y a un délai là-dedans.
Alors Félix Balmonnet, peut-être qu'on peut présenter la plateforme Chat 3D.
Oui, avec plaisir. Donc nous, on se spécialise en fait dans la génération de modèles 3D. Donc comme je disais, vous connaissez la génération de texte, génération d'images, peut-être la génération de vidéos. Nous, on fait des modèles 3D. Concrètement, vous prenez en photo la chaise sur laquelle vous êtes assis avec votre téléphone. Vous allez sur chat3d.ai. Vous prenez la chaise en photo, vous la mettez sur le logiciel et en 2-3 minutes, ça va vous le reconstruire en 3D. Vous pourrez tourner autour de la chaise et ça va, je dirais, virtualiser cette chaise-là. Vous pourrez derrière l'imprimer en 3D, créer un jeu vidéo avec, etc., etc.
Alors justement, est-ce que ce type de plateforme, d'outils, ça peut concurrencer ou aider par exemple des architectes?
Des architectes, tout à fait. On a quelques clients dans ce domaine-là, architectes d'intérieur, hein, on parlait de mobilier juste avant. Donc on a l'architecture comme marché. Notre premier marché, je dirais que c'est d'abord le jeu vidéo, le cinéma d'animation ensuite. Ça, ce sont les marchés principaux et on a tout ce qui va être aussi utilisé dans les casques de réalité virtuelle, réalité augmentée, aujourd'hui.
Donc les casques 3D, enfin réalité virtuelle, hein, ils sont pas mal, intéressants, mais je trouve quand même qu'ils manquent encore de netteté, de précision, de piqué, on va dire. Est-ce que vous avez cette impression aussi?
Oui, complètement, complètement. Aujourd'hui, je dirais que les technologies les plus au point c'est peut-être ceux d'Apple notamment, qui est vraiment de l'ultra luxe à 3 500 $. Voilà, c'est pas non plus pour n'importe qui. On constate que oui, il y a des gros défauts, en tout cas des niveaux de qualité qui sont pas ceux qu'on connaît, sur nos écrans de télé aujourd'hui, et qui en sont bien loin.
Alors c'est drôle parce que j'ai vu une exposition à côté de Lille, hein, donc bah c'est à Lille d'ailleurs, au Tripostal en ce moment, et on voit d'anciennes technologies d'images, notamment celles qui faisaient appel aux pixels avant des écrans d'ordinateur, où il y avait des choses très basiques, il y avait très très peu de pixels, et on voyait des formes en fait, pour représenter des objets ou des corps, c'était vraiment très minimaliste, et maintenant ce sont presque des objets d'art, ces œuvres-là.
Oui, c'est un petit peu du. Il y a un mot pour ça qui m'échappe, hein, mais c'est le fait de venir même refaire des œuvres artistiques avec des outils informatiques du passé. Et c'est quelque chose qui est assez en vogue, très, je dirais, en marche arrière de ce qu'on peut faire justement avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on trouve ça assez rafraîchissant. Donc c'est un mouvement qui s'opère un peu, dans une forme de nihilisme de ce que ça pourrait être, en tout cas, ce que pourrait être l'intelligence artificielle et son usage. On vient en marche arrière sur, comment on utilisait l'informatique, dans la fin des années 90, par exemple.
Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Alors, vous parliez de 3D, hein, puisque vous travaillez là-dedans, mais dans les cinémas, par exemple, dans les salles de cinéma, quels sont les procédés les plus avancés et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour vous?
Je dirais qu'on a aujourd'hui, donc on a eu une désertion, hein, des salles de cinéma, ces dernières années, et on constate qu'en fait ce qui va le mieux, fonctionner, notamment on voit que par exemple les concerts ont très très bien, fonctionné. On a vu que les concerts, ce qu'on appelle en open air, hein, où il y a des dizaines de milliers de personnes, fonctionnent très bien. Je pense que les cinémas sont en train aujourd'hui de se tourner vers un modèle un petit peu similaire, c'est-à-dire vendre, au-delà d'un film, vendre aussi une expérience qu'on ne pourrait pas avoir à la maison ou même avoir aujourd'hui avec Netflix sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc dans cette direction-là, ça revient à mettre par exemple, des systèmes d'air qui nous soufflent sur le visage, des systèmes qui nous font bouger, vibrer, des lumières un peu plus puissantes. Je pense que l'avenir, en tout cas, des salles de cinéma est davantage expérientiel ou alors serviciel, pouvoir manger au cinéma, pouvoir mieux s'installer, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, par exemple, aux États-Unis, ce système de service pendant qu'on regarde un film.
Et puis, bien sûr, il y a aussi les scénarios qu'on écrit, où des gens sont spécialisés là-dedans, sont leur métier, en fait, c'est leur métier, et qui se sentent concurrencés par les IA pour créer des histoires de toutes pièces ou rebroder, on va dire. Et pourtant, il y a un risque d'appauvrissement général, on va dire, des arguments, de films ou de fiction.
Il y en a un, mais je pense que le meilleur exemple de ça, c'est que, aujourd'hui, par exemple, dans les années, je prends le début des années 1900, si vous aviez un appareil photo, d'une part, vous étiez très riche, et d'autre part, vous étiez probablement photographe. C'était quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. Il fallait un certain savoir-faire. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans sa poche, son téléphone. Pour autant, tout le monde n'est pas photographe. L'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Vous pouvez, hein, vous aujourd'hui demander un scénario à ChatGPT, il vous le fera. ce sera relativement médiocre parce que vous n'êtes pas un professionnel. C'est la même chose. L'intelligence artificielle aujourd'hui est davantage un outil qu'une solution autonome qu'on veut bien nous le faire croire. Mais c'est une solution qui va vous permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que, par exemple, la photo a été pour comparer à la peinture à l'huile. Aujourd'hui, vous avez une capacité de production qui est décuplée. Nous, dans la 3D, on le voit très bien, hein. Les artistes avec lesquels on travaille, on a un logiciel qui est fait pour les artistes, sont beaucoup plus productifs, sont capables de produire plus d'œuvres qu'ils auraient aimé produire auparavant et avec lesquelles ils étaient plutôt... En tout cas, ils utilisaient des outils qui les limitaient, des logiciels qui les limitaient jusqu'alors.
Et pour vous, est-ce que cette évolution technologique de l'IA dans les images, etc., est-ce qu'elle est linéaire, progressive ou est-ce qu'elle est exponentielle?
Pour l'instant, elle semble être quasiment exponentielle. C'est dur de prédire si elle va le rester. En tout cas, elle est assez loin d'être linéaire pour l'instant. Comme on constate, on a vu qu'il y a certaines périodes où il y a une petite fatigue dans la progression, mais ça reste très, très, très fort.
Vous ne sentez pas de limite a priori?
Aujourd'hui, non. Beaucoup de personnes disent que la limite, donc déjà il y a une dimension écologique extrêmement forte, mais beaucoup de personnes disent que la limite, c'est plutôt l'énergie qu'on a à notre disposition. Et c'est pour ça que il y a beaucoup notamment de milliardaires américains qui investissent massivement, ultra massivement, dans du nucléaire, par exemple aux États-Unis.
Oui, en France aussi, hein, on va voir la nouvelle centrale à Gravelines, là, elle est en partie liée aux data. Hein.
Oui, elle y est liée, mais je dirais qu'on est quand même toujours dans un aspect assez commun. La nouveauté aujourd'hui, c'est que les milliardaires de la Silicon Valley cherchent à privatiser l'énergie et à acheter une centrale uniquement pour nourrir un data center. Ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et sans précédent. On a aussi l'apparition de start-up privées qui visent à concurrencer des EDF américains, par exemple. Ça, c'est véritablement quelque chose de nouveau.
Pour l'instant, on va dire qu'en France, ce sont des unités publiques qu'on loue, dont on donne des services en les moyennant des sociétés privées quand même.
Oui, c'est vrai, et à voir si ça va être un modèle qui va perdurer ou se pérenniser. Aujourd'hui, c'est assez dur à dire.
Voilà, donc on sent que le public-privé, c'est encore une notion qu'il faut, on va dire, se méfier d'une certaine manière jusqu'où elle va, dans le contrôle aussi aux citoyens.
Oui, c'est vrai. On peut se dire ça. Il y a des pays, par exemple, notamment sur l'intelligence artificielle, qui ont pris le pari de se dire qu'il fallait qu'ils développent leurs propres outils. Ou alors qui mettent à disposition des outils privés à leur population. Ça a été le cas par exemple à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où ils ont pris des licences de ChatGPT et ils ont mis à disposition ces licences à leurs citoyens. Donc voilà, on a différents acteurs comme ça. En France, on a aussi l'État, l'Éducation nationale, qui a essayé de mettre en place un outil de génération de textes à disposition des enseignants. On a différentes initiatives. Les années qui viennent vont nous dire lesquelles auront été les bonnes.
Eh bien, merci d'être intervenu en 2025, Félix Valmonet. On prend rendez-vous pour la prochaine décennie.
C'est ça, avec plaisir.
Allez, très bonne journée. Au revoir, merci.
Au revoir, merci beaucoup.